Mother Nature, the beginner of all, the giver of all, the sustainer of all.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 13 septembre, c'est le premier de l'année, on est ravis d'être avec vous ce soir. Et on commence cette émission par, au-delà des traditionnels brèves, un petit dossier sur l'Afghanistan avec un sujet donc sur la situation actuelle en Afghanistan et l'interview d'une militante du planning sur l'Afghanistan à Lyon récemment.
Et on enchaînera ensuite au local avec Laurent Wauquiez qui réprime le Lyon Antifa Fest et le CCO où il est organisé, avant de revenir dans un petit documentaire sur la coupure d'électricité qui a eu lieu au squat Auguste Blanqui.
On aura un invité, mais à l'international, on parlera aussi donc de la punition collective en Palestine par l'État d'Israël. Et puis, on fera un petit tour des changements sur les droits à l'avortement pendant l'été, et notamment en allant au Texas et au Mexique.
Mais d'abord, les traditionnels brèves.
Et on commence l'année par une bonne nouvelle. Bon, il a fallu aller à l'étranger pour la trouver, mais quand même. Les chauffeurs et chauffeuses Uber des Pays-Bas ont remporté une première victoire judiciaire contre leur employeur. Un tribunal néerlandais a en effet jugé que ces chauffeurs sont bien sous contrat de travail et ne peuvent donc pas être considérés comme des travailleurs indépendants. Le tribunal a en effet estimé que la relation juridique entre Uber et ses chauffeurs répond à toutes les caractéristiques d'un contrat de travail et les chauffeurs sont donc couverts par la convention collective de travail pour les chauffeurs et chauffeuses de taxi, a déclaré le tribunal. Un vrai coup dur pour l'entreprise américaine, qui n'est d'ailleurs pas le premier, puisque des mobilisations de chauffeurs et chauffeuses ont réussi à faire reconnaître leurs droits en Espagne ou encore au Royaume-Uni l'année dernière. Bref, l'étau se resserre sur le modèle de l'ubérisation à tout va. En France, les manifs contre le contrôle social et sécuritaire que représente le pass sanitaire continuent toutes les semaines. Ce samedi, à Toulouse, les fachos ont attaqué le cortège en plein milieu de la manifestation, et notamment le cortège révolutionnaire autonome et gilets jaunes. Celui-ci a répliqué frontalement et a réussi à faire sortir les fachos de la manif avant que les flics, qui se tairaient bien tranquillement au loin, ne gazent un peu partout. Un cortège révolutionnaire Révolution sans frontières a en effet vu le jour dans les rues toulousaines depuis quelques semaines. L'objectif, ne pas circonscrire les revendications à l'opposition au pass, mais construire une solidarité internationale contre les attaques contre tous les exploités. Et face aux FAF qui veulent nous diviser et nous tabasser, la solidarité se construit donc dans la rue et dans les slogans. À Marseille, les personnes retenues dans le centre de rétention administrative se sont mis en grève de la faim depuis vendredi dernier. Et voici le communiqué qu'ils ont transmis. Nous déclarons, nous détenus du centre de rétention du Canet à Marseille, que la situation sanitaire est devenue très critique suite à la découverte de 4 cas Covid jusqu'à maintenant. Nous nous inquiétons énormément des jours à venir et on s'inquiète trop sur notre état de santé. Nous partageons des lieux en commun tous ici, comme les mêmes appareils à boissons ou les machines à café qui ne sont jamais nettoyées à la suite du passage de tout le monde. Suite aux dangers qui nous menacent, nous demandons notre libération immédiate et la fermeture du centre de rétention. Tous les retenus déclarent faire grève à partir du 10/09/2021 à 11h et sans fin jusqu'à notre libération. La répression policière donc n'a pas tardé à commencer contre ces personnes, interdiction de parloir ou de recevoir du tabac ou des affaires, et les médecins se sont une nouvelle fois fait les complices de la police en distribuant des anxiolytiques aux prisonniers et prisonnières. Afin de les soutenir, un rassemblement a été organisé hier devant le CRA. On rappelle que les CRA sont des prisons qui servent à réprimer l'existence de personnes considérées comme illégales. Force et courage à eux et fermeture de tous les centres de rétention. Et enfin, on finit dans la rubrique gastronomie. On est tombé sur cet article dans Le Figaro. Sa mère ne payait pas la cantine. En Gironde, un enfant de 7 ans privé de déjeuner est ramené chez lui par un policier municipal. L'enfant n'est pas du tout traumatisé et a même fait des envieux, a commenté la mère, qui a fait appel à la police. Il n'y avait pas d'autre solution, se défend-elle. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à lui envoyer. Le village s'appelle Saint-Médard-de-Guizière.
Et donc on va enchaîner en parlant de l'Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer par vous diffuser un entretien avec une militante du planning familial pris lors du rassemblement qui a eu lieu samedi dernier, place de la Comédie, rassemblement qui était à l'appel donc du planning familial du Rhône, Femmes Solidaires, UCL, Ensemble, Graines d'Anard, PCF du Rhône, Solidaires 109, le collectif MeToo et l'UDCGT 69.
Vendredi 27 août, nous étions environ 120 à Lyon pour apporter un premier soutien et demander l'évacuation des personnes souhaitant quitter l'Afghanistan, qui chaque jour sont de plus en plus nombreuses à se regrouper à l'aéroport de Kaboul. Malgré la violence extrême du régime taliban et l'idéologie réactionnaire qu'il met en place, malgré l'attaque terroriste de l'aéroport de Kaboul qui tua plus d'une centaine de personnes le 26 août, l'État français, considérant que l'évacuation de 2800 personnes est suffisante, a arrêté les rapatriements le 27 août.
Ouais, Marion, je suis militante au planning familial et on fait partie des structures qui ont appelé aujourd'hui au rassemblement. Alors du coup, c'est un regroupement de plusieurs associations, syndicats et partis politiques pour soutenir les Afghans et les Afghanes et dénoncer les extractions qui peuvent y avoir et qui ont déjà été mises en place par les talibans en Afghanistan.
Dans le même temps, le nouveau régime en place à Kaboul multiplie les exécutions, les enlèvements, les déclarations violentes menaçant les femmes, les minorités sexuelles et de genre, les artistes, les militants et les militantes, les journalistes.
Nous, principalement, on voulait mettre en évidence toutes les régressions des droits des femmes et des jeunes filles qui vont être mises en place. Donc, dans les premières mesures qui ont été faites, c'est le fait de potentiellement les femmes puissent continuer à aller à l'université, mais totalement voilées, avec simplement des profs femmes en non-mixité. Et surtout, elles doivent quitter les cours 20 minutes avant les hommes pour qu'elles ne croisent pas les hommes. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, pour l'instant, les journalistes, qui étaient notamment des présentatrices à la télé ne sont plus à l'écran, ont été licenciées, en tout cas pas officiellement. Et on sait que notamment on a eu une femme qui faisait partie de la police afghane qui a été assassinée devant son mari et son petit garçon parce qu'elle avait appartenu à l'armée afghane. Alors du coup, ce qu'on a eu comme info, c'est le témoignage de deux journalistes qui avaient décidé de couvrir les manifestations des femmes afghanes. Puisque comparé au premier gouvernement, entre guillemets, des talibans, il y a une vraie mobilisation des femmes, notamment à Kaboul, et elles ont décidé de descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits. Et des journalistes ont suivi en fait la manifestation, ils ont été arrêtés et roués de coups pendant un certain nombre d'heures dans des locaux là où ils avaient été arrêtés. Et du coup, ils ont dénoncé, ils ont pu faire passer leur témoignage avec les images de leur corps complètement tuméfiés. On sait aussi que des journalistes qui filmaient dans les immeubles, en fait, ont reçu des tirs dans les immeubles où ils étaient.
Solidarité avec les réfugiés du monde entier.
Ils se sont aperçus quand même que les talibans, il y avait une grosse solidarité aussi internationale pour essayer de faire sortir des femmes et des jeunes filles qui peuvent être menacées. Et ils ont décidé depuis quelques jours, en fait, de réquisitionner l'ensemble des papiers d'identité de femmes ou de jeunes filles pour les empêcher de quitter le territoire. Ils surveillent aussi maintenant tous les réseaux sociaux et mettent un certain nombre de pressions et de surveillance au niveau des téléphones pour éviter les contacts, notamment avec les pays étrangers. Alors, il y a plusieurs initiatives. Il y a une cagnotte qui permet de récolter de l'argent et de pouvoir transmettre l'argent aux personnes qui essayent de quitter l'Afghanistan par leurs propres moyens. Il y a le fait d'acheter des téléphones prépayés pour rentrer en communication avec des personnes en Afghanistan en leur assurant leur sécurité. Et après, il y a toute la solidarité en termes de vêtements, de nourriture ou d'accueil solidaire pour les Afghans et les Afghanes qui sont déjà arrivés sur le territoire ou qui pourraient arriver sur le territoire. Et après, il y a tout un combat pour monter des dossiers avec les personnes qui sont restées là-bas pour essayer de valoriser auprès du consulat français le fait qu'ils sont en danger et de pouvoir les faire quitter le territoire et venir en France. On essaye d'être en collectif et notamment avec les femmes qui militaient pour les droits des femmes avec qui on pouvait avoir des liens là-bas, ce qui est émotionnellement assez insupportable ou qui est extrêmement frustrant, c'est qu'il y a des fois, en fait, pendant de longues durées, on n'a plus de nouvelles. Et que, bah voilà, forcément, on s'imagine le pire ou en tout cas, on ne sait plus comment les contacter parce qu'on fait ce qu'on peut à l'échelle individuelle, même si on est regroupé en collectif. Mais il y a un certain nombre de politiques qui ne dépendent pas de nous. Et si on n'a pas des positions fortes, notamment de la France, on est un peu démunis. Alors, il existe une cagnotte où vous pouvez contribuer si vous voulez aider les Afghanes et les Afghans. On le mettra sur le blog de Superféministe et sur l'événement qui appelle à ce rassemblement pour que vous puissiez avoir le lien et contribuer si vous le souhaitez.
De fait, non, la France n'a pas pris sa part, ni elle, ni l'Union européenne. Alors, comme le 27 août, comme ailleurs en Europe, nous réclamons aujourd'hui un accueil inconditionnel des personnes demandant l'asile en France et en Europe. Que les personnes qui souhaitent fuir l'Afghanistan puissent le faire dans le pays de leur choix, dans des conditions d'accueil dignes et humaines, un accès au logement, à la santé, à la formation. Que toutes les personnes afghanes sur le territoire français et européen soient immédiatement régularisées, quelle que soit leur situation administrative. Que cessent immédiatement les reconduites à la frontière. Que les ONG et les militants et militantes en Afghanistan soient soutenus, pas par des beaux discours, mais par les moyens concrets d'une diplomatie au service des droits humains et non des intérêts économiques. Une réforme radicale, enfin, des conditions d'accueil et d'asile en France, car les frontières tuent chaque jour. Droit d'asile pour les Afghans, droit d'asile pour tous et toutes.
Donc vous l'avez tous et toutes compris, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et après cette petite introduction, on va s'intéresser à pourquoi et comment on en est arrivé là.
Oui, depuis août donc, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan tandis que les armées occidentales, États-Unis en tête, poursuivent l'évacuation d'urgence de leurs ressortissants, abandonnant lâchement une grande partie de ceux et de celles qui ont travaillé pour eux pendant des années. C'est encore un de ces tours de passe-passe de l'histoire, rappelez-vous. En juin, Biden disait que la victoire des talibans était littéralement impossible, qu'une nouvelle défaite de Saïgon était impensable, que le retrait américain se passerait dans le calme. Mais oui, et maintenant, c'est la débâcle. Au nom de la guerre contre le terrorisme, les Américains ont mené une guerre d'intervention et d'occupation qui a duré 18 ans, jusqu'à la décision de Biden de retirer les troupes américaines. Mais les Américains ont laissé derrière eux un gouvernement faible, dépourvu de légitimité, divisé entre le président Ghani et le vice-président Abdullah et d'autres chefs de guerre encore influents. Pour comprendre un peu l'ampleur de l'échec impérialiste, revenons un peu sur l'histoire récente de l'Afghanistan. En 1978, la révolution de Saur met en place une république populaire pro-soviétique dont les réformes progressistes se heurtent aux autorités religieuses et tribales locales. En pleine guerre froide, ces oppositions vont se solder par l'intervention de l'URSS qui fait la guerre au premier Mujahideen islamiste, secrètement soutenu par qui ? Par la CIA et son homologue pakistanais, l'ISI. Les réseaux islamistes sont alors organisés et rassemblés sous l'égide de Ben Laden, ce qui va donner lieu à la création d'Al-Qaïda en 1988. Après 10 années de guerre et le retrait des troupes soviétiques en 1989, les talibans, mouvement nationaliste ethno-religieux, se sont formés en 1994 dans les madrasas, les écoles islamiques pakistanaises. Les soviétiques se retirent alors définitivement du pays et laissent les communistes afghans se défendre seuls face aux groupes islamistes qui finissent par prendre le pouvoir en 1992 en proclamant l'État islamique d'Afghanistan. Commence alors une longue guerre civile où les moudjahidines se divisent entre eux et de laquelle sortent vainqueurs les talibans en 1996. Contre eux, une alliance, l'Alliance du Nord, qui est dirigée par Massoud, unifie plusieurs groupes combattants commandés par des seigneurs de guerre. En 2001, après l'attentat du 11 septembre, le président Bush engage les États-Unis dans une guerre contre le terrorisme. L'intervention armée des États-Unis et de l'Alliance du Nord font chuter les talibans et installent un nouveau gouvernement afghan. Mais alors que les États-Unis envahissent l'Irak en 2003, les talibans en profitent pour se réorganiser dans le sud et dans l'est et multiplient les attentats suicides. En 2009, Obama décide d'en remettre une couche et il envoie 30 000 soldats supplémentaires. En février 2020, des négociations sont ouvertes à Doha, au Qatar, entre des diplomates américains et la délégation talibane. Les accords prévoient le retrait de tous les soldats étrangers d'ici l'été 2021 en échange de garanties sécuritaires. C'est ainsi qu'en mai dernier, les troupes américaines et de l'OTAN entament leur retrait. Mais les talibans en profitent pour lancer une offensive éclair qui écrase en 10 jours l'armée afghane. Ils entrent dans Kaboul le 15 août 2021 et s'emparent du palais présidentiel sans combattre. Alors, que retenir de cette rapide chronologie ? Comment est-ce qu'en l'espace de 30 ans, les combattants islamistes sont passés du statut de soldats de la liberté financé par la CIA faisant rempart à la menace communiste à l'incarnation du mal absolu qui justifie des milliers de morts, notamment des civils? Comment est-ce qu'au bout de 20 ans d'échanges de techniques, de financement, de formation militaire par les troupes américaines, l'armée afghane a pu-t-elle céder en 10 jours? Faut-il en conclure que cette guerre impérialiste qui a causé la mort de 47 000 civils n'a servi à rien? En tout cas, on assiste une nouvelle fois à une belle leçon sur la manière dont l'impérialisme occidental exporte sa démocratie à coups de drones, de bombardiers et de mensonges. Bien sûr, l'occupation américaine n'avait pas pour seul but la lutte antiterroriste. Ce n'était pas non plus pour défendre les droits des femmes, la liberté ou la construction de la nation, comme on disait. C'était d'abord une démonstration de force pour réaffirmer une hégémonie militaire, mais aussi une opportunité pour consolider les intérêts géostratégiques dans la région afin d'y créer de nouvelles bases opérationnelles. L'invasion de l'Afghanistan, à grands coups de rhétorique belliqueuse, c'est un peu l'Empire contre-attaque. Dans l'histoire, même si les événements ne sont pas toujours prévisibles, il y a toujours des causes et des conséquences. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont voulu utiliser la catastrophe à leur avantage en se faisant les gendarmes du monde et les garants d'une démocratie fantasmée. Désormais, la débâcle américaine en Afghanistan porte un coup au leadership américain et reconfigure les équilibres régionaux. À l'échelle nationale, on assiste à plusieurs types de réactions. beaucoup se rallient aux talibans, comme l'ancien président Karzai par exemple, et choisissent la voie de la négociation en vue de former un gouvernement de transition. D'autres, bien que minoritaires, essayent de s'opposer aux talibans, comme les manifestantes de Kaboul dont on parlait dans le reportage, qui se sont fait violemment réprimer. En tout cas, le fait qu'un deuxième émirat n'ait pas encore été déclaré officiellement par les talibans signifie qu'ils ne sont pas encore, qu'ils n'ont pas encore la maîtrise totale ni de l'armée, ni l'adhésion unanime des seigneurs de la guerre, ni même le contrôle de certains pans de la production, notamment de l'opium. Au niveau régional, l'issue de la guerre en Afghanistan redessine l'échiquier géopolitique. La Chine, la Russie, l'Iran et le Pakistan cherchent à profiter du vide laissé par les États-Unis pour promouvoir leurs propres intérêts. Au niveau international, la défaite en Afghanistan met en évidence l'hypocrisie des interventions humanitaires qui servent en réalité de façade aux guerres impérialistes et nous rappelle que même les USA ne sont pas invincibles. Pour l'instant, les talibans essaient de gagner du temps en jouant les modérés, histoire de consolider leur assise. Mais ne nous y trompons pas, ni les guerres impérialistes, ni la menace des talibans ne serviront à l'émancipation du peuple afghan, des travailleurs précaires et des femmes. Courage et force à eux.
Et pour finir sur l'Afghanistan, on va écouter un son de la rappeuse féministe afghane Sonita, qui a échappé deux fois à des mariages forcés et qui est aujourd'hui exilée aux États-Unis. Et donc on écoute Brides for Sale.
اما به من نگاه بچریم Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h25. Vous venez d'écouter Breathe for Sale de Sonita, une rappeuse afghane. Et tout de suite, on passe à la rubrique
internationale.
Et donc, on commence immédiatement par un sujet sur la Palestine.
Ouais, puisque des prisonniers palestiniens ont littéralement humilié le système carcéral ultra sécurisé et sécuritaire israélien en s'évadant de la prison donc, de Gilbao, située au nord de la Cisjordanie, de manière assez spectaculaire, puisque ils ont creusé un tunnel depuis leur toilette, donc dans leur cellule, vers l'extérieur de la prison. Alors, dans beaucoup de camps et de villes palestiniennes, il y a eu des manifestations de joie. L'évasion a été qualifiée d'héroïque. Alors ça s'est passé dans la nuit du 5 au 6 septembre, l'évasion. Alors déjà, nous aussi, on le dit, un Sartek à eux. Depuis, deux d'entre eux ont été interpellés. Mais surtout, la police et l'armée israélienne ont mis les grands moyens comme à leurs habitudes. Dès le 6 au matin, donc, l'armée a investi la ville de Jenin, qui est l'une des villes historiques de la résistance palestinienne en Cisjordanie, qui, rappelons-le, est occupée illégalement depuis 1967. L'armée a littéralement attaqué les maisons dans cette ville et certains quartiers des proches des évadés, et ils ont enlevé plusieurs personnes, dont deux des pères et deux des frères des ex-prisonniers. La ville de Khan Younis, au sud de Gaza, a été bombardée. Et quant à la prison de Gilbao, les 350 détenus ont subi un transfert clandestin dans des prisons inconnues. Leurs familles n'ont absolument aucune nouvelle. Pour le reste des prisons, Israël a tout simplement interdit les visites des familles et des avocats aux prisonniers palestiniens, histoire de bien faire chier tout le monde, enfin surtout les Palestiniens. On rappelle d'ailleurs que dans les geôles israéliennes, il y a 4400 prisonniers politiques palestiniens, selon un certain nombre d'ONG. Il existe, comme tout bon régime d'apartheid, des tribunaux militaires spécifiques pour juger les Palestiniens et les Palestiniennes quand ils et elles sont jugés, puisqu'Israël peut d'ailleurs détenir pendant 6 mois, alors c'est censé être maximum des Palestiniens, mais finalement ces 6 mois sont généralement renouvelés de manière indéfinie. Précisons que parmi ces prisonniers, il y a des centaines de mineurs. La réponse d'Israël à cette évasion n'est malheureusement pas une grande surprise. La punition collective étant la spécialité d'Israël, en témoignent les bombardements massifs de ces dernières années, notamment dans la bande de Gaza, souvent suite à de simples, entre guillemets, tirs de roquettes. 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019 et 2021. Tout ça, ce sont des bombardements massifs dans la bande de Gaza, notamment. Et on avait d'ailleurs fait venir des Palestiniens le lundi 24 mai, si vous voulez réécouter l'émission en podcast sur notre blog, pardon, puisque à ce moment-là, il y avait bien des bombardements dans la bande de Gaza et des mouvements un peu partout en France et en Europe. Comme d'habitude, donc solidarité internationale à la résistance palestinienne, et surtout, on espère que les 4 évadés sur les 6 qui sont toujours en cavale ne vont pas se faire reprendre.
Et en ce qui concerne le droit à l'avortement, l'été a apporté son lot de changements et pas toujours dans le bon sens.
Oui, voilà, puisqu'on a fait une bonne pause de 2 mois au Canu Info, on va revenir sur ce qu'il s'est passé pendant l'été, et plus particulièrement au Mexique et au Texas. En commençant par le plus effarant, et donc le Texas. Tout commence en mai dernier quand le gouverneur texan républicain Greg Abbott signe une loi interdisant l'avortement dès qu'on entend les premiers battements de cœur du fœtus. Concrètement, cela revient à dire que l'avortement est interdit après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol et d'inceste. C'est très court, c'est la moitié du délai actuel en France, et dans les faits, cela ne permet presque plus d'accéder à l'avortement si l'on compte un temps pour s'en rendre compte qu'on est enceinte et puis le temps d'y penser un petit peu. D'ailleurs, au Texas, 85% des avortements actuellement ont lieu après 6 semaines. Les défenseurs du droit à l'avortement avaient saisi la Cour suprême et ils ont été bien déçus puisque celle-ci a déclaré jeudi 2 septembre, le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi du gouverneur, qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce sujet. Et donc, ça revient à l'autoriser. C'est la première fois depuis la reconnaissance du droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis en 1973 que la Cour suprême ne s'oppose pas à une telle loi, pourtant évidemment inconstitutionnelle. Plus inquiétant étant que pour contourner la Constitution, la loi prévoit que ce ne soient pas les institutions qui traquent et poursuivent en justice les femmes, mais les citoyens. La loi fait appel à la délation et ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont encouragés à porter plainte aux civils contre les organisations ou les personnes qui aident les femmes à avorter. Cela concerne les médecins, les cliniques, mais cela peut aussi aller jusqu'à la personne qui aura conduit la voiture jusqu'à la clinique ou encore des amis qui aideraient à financer l'avortement. En cas de condamnation, la loi prévoit que le fameux citoyen touche 10 000 dollars de prime, soit environ 8 500 euros. Il y a donc un très gros risque de voir émerger de vrais chasseurs de primes qui traqueront les femmes qui avortent et s'en prendront à tout leur entourage, décourageant quiconque de venir en aide à une femme souhaitant avorter. Le ministère fédéral de la Justice vient de porter plainte contre l'application de cette loi et on espère évidemment très fort que cela mène à quelque chose et que les femmes texanes n'auront pas à vivre dans cette dystopie très longtemps. Et pourtant, vraiment pas loin, on a la preuve qu'il est possible de prendre une autre direction. Puisqu'au Mexique, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la criminalisation du droit à l'avortement la semaine dernière, le 7 septembre. En fait, elle se prononçait initialement surtout sur une loi de l'État de Coahuila, d'ailleurs frontalier avec le Texas, laquelle prévoyait 3 ans d'emprisonnement pour une femme ayant avorté et interdisait aux femmes d'être assistées par un personnel de santé pour un avortement et limitait à 12 semaines le délai pour avorter en cas de viol. Les juges les ont déclarés inconstitutionnels parce qu'ils violaient le droit des femmes à décider pour elles-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est surtout qu'ils ont déclaré, en tant que Cour suprême, que cette décision devait s'appliquer dans tout le pays et non pas seulement dans l'État de Coahuila. Alors qu'au Mexique, seulement 4 États sur 31 autorisent explicitement l'avortement. Concrètement, ça ne signifie pas que l'avortement a été déclaré légal dans tout le pays, mais qu'il n'est plus possible de poursuivre en justice des femmes qui ont avorté, puisqu'il ne s'agit plus d'un crime. Cela permet aussi d'établir une jurisprudence et donc un grand pas vers la légalisation. Et les associations féministes se sont réjouies de pouvoir maintenant intenter des recours pour forcer à l'organisation d'avortements sûrs et donc légaux. C'est presque trop beau pour le croire, sachant que l'État de Coahuila a déclaré accepter de se conformer à cette décision et même de l'appliquer rétroactivement et donc de libérer les femmes actuellement enfermées pour avortement. Félicitations donc à toutes les femmes mexicaines. C'est leur lutte depuis des années et leur travail d'information qui a permis d'arriver à ce résultat. Espérons que très vite le Mexique, après l'Argentine en décembre dernier, devienne le 5e pays d'Amérique latine à officiellement légaliser l'avortement.
Et on passe tout de suite au...
Local.
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 Et au local, Laurent Wauquiez réprime le CCO et le Lyon Antifa Fest.
Ah oui, Laurent Wauquiez. Alors, il s'est mis très en colère suite à la publication d'un teaser de présentation de la prochaine édition du Lyon Antifa Fest, donc festival antifasciste organisé par des camarades, donc au CCO, la prochaine édition étant en décembre 2021. Ce teaser reprenait des extraits de concerts des éditions précédentes, dont un extrait d'un groupe de rap qui, en 2015, faisait chanter le public sur un joyeux « Et tous les flics sont des bâtards », etc., etc. « Tous les flics sont des... » Voilà, bon.
J'écoute le studio, allez le reprendre.
Les faves, donc, quand ils ont vu ça... Et d'ailleurs, les faves suivent bien le festival CCO, puisque régulièrement, ils tentent de l'attaquer physiquement ou sur Internet. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont fait chauffer Internet et les réseaux, entraînant à leur suite des réactions de la droite extrême, toujours plus proche de l'extrême droite, avec ce brave Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans une tribune relayée quand même en une du Progrès, la région donc va retirer sa subvention annuelle de 45 000 euros au CCO. À droite, tout le monde a applaudi évidemment, sauf que cette somme correspond à une subvention de fonctionnement du CCO et n'a absolument rien à voir avec le Lyon Antifa Fest qui s'autofinance. Mais ça, peu importe pour Laurent Wauquiez. On est là dans une bonne vieille instrumentalisation politico-médiatique décidée de manière autocratique par Wauquiez, dont l'objectif ici est de s'attaquer d'une part au combat antifasciste en tentant de le faire taire, mais c'est aussi une attaque à la liberté d'expression et à la création artistique. Un comble venant d'un des gars les plus à droite des Républicains qui n'hésite jamais à faire des amalgames racistes entre immigration, délinquance et terrorisme en toute impunité. On a bien compris de façon que Laurent Wauquiez et sa clique se rangent du côté de l'extrême droite qui, elle, a des locaux dans nos villes, attaque régulièrement nos cortèges et nos locaux, fait des ratonnades ou des actions illégales aux frontières en toute impunité. Solidarité antifasciste et solidarité avec le festival Lyon Antifa Fest.
On continue au local, et puisqu'en tant que fidèles auditeurs des Canu Info, vous savez que dans la métropole de Lyon et partout en France, de nombreuses personnes sont à la rue, et vous savez aussi qu'il y a régulièrement des squats ouverts pour les loger. C'est le cas du squat qui se trouve à Auguste Blanqui, à Villeurbanne, qui a récemment subi une coupure d'électricité. Et comme les habitants tenaient à vous en parler, on va vous passer un petit entretien avec une habitante et une soutien.
Oui, je suis Alcatar Andrea, je suis 19 ans, j'ai 2 ans ici en France. Je suis venue en fin de septembre, en 2019. Je suis en l'école, je vais commencer le travail et tout. J'ai fait le métier de vente. J'habite à Blanqui-le-Riz, dans une squat. Et on avait des problèmes parce qu'on n'avait pas de maison quand on est arrivé ici. Et on a parlé avec l'assistante et tout. Ils n'ont pas trouvé la maison. Et après, ils ont dit qu'il y avait des personnes qui ouvrent la maison. Pour le moment, il y a une quinzaine de personnes qui habitent. Et l'autre, ils sont partis parce qu'ils ont peur. Et... En fait, c'est coupé le courant et ce n'est pas possible d'habiter avec des enfants ici. Ils ont parti. Je suis avec ma mère et j'ai une frère et trois sœurs d'autres. Ils sont plus petits que moi. Ils sont aussi en l'école et après on est venu ici. Jusqu'à maintenant, c'était bien. On avait le lot, on avait le courant. Il y a une semaine, la police il est venu, ils ont coupé le courant et... ce n'est pas possible de faire de manger, ce n'est pas possible de faire rien du tout. On n'a pas de lumière. Maintenant que ça va venir le froid aussi, ce n'est pas possible de vivre dans cette maison. Ben, si c'est possible que les personnes qu'ils ont à côté de nous, ils peuvent nous aider pour les machines à laver ou pour charger le portable ou quelques lumières pour qu'on reste un peu... plus en contact.
Moi, c'est Camille. Je suis souvent ici, donc au squat avenue Auguste Blanqui, pour apporter du soutien, essayer d'accompagner un peu les personnes qui habitent ici dans leurs procédures et essayer d'obtenir des relogements. Parce que ça fait déjà 2 ans que la situation elle dure ici, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que le lieu il est ouvert, que les personnes sont déjà dans des procédures de demande d'hébergement, de demande de logement. En fait, elles ont toutes déjà droit à un hébergement, puisque l'hébergement en France, c'est inconditionnel. Et oui, non, ça fait quelques jours qu'il n'y a plus l'électricité ici. Donc en fait, il y a eu... c'est le propriétaire, donc la SEMCODA, qui est un bailleur social, qui a demandé à Enedis de venir couper l'électricité et qui a demandé le soutien de la police municipale pour intervenir. Donc ils ont coupé l'électricité depuis la rue avec vraiment aucune possibilité de la remettre. Et du coup, ça fait quelques jours que les habitants n'ont plus d'électricité. Donc ce qui veut dire aussi plus d'eau chaude, plus de chauffage pour cet hiver, plus d'électricité pour cuisiner, pour les frigos, pour les machines à laver, pour la lumière. Sachant qu'il y a quand même des enfants très jeunes ici. Il y a une petite fille de 4 ans, une petite fille de 9 ans. Enfin voilà, on est dans des situations... Puis l'intervention a été aussi très stressante pour les familles parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout été prévenues. Donc elles ont juste vu des agents de police arriver avec un technicien, avec une posture menaçante. Donc ça a été super dur, notamment pour les enfants, mais pour tout le monde ici, de subir cette intervention, quoi. Et du coup, derrière, nous, on a sollicité la mairie de Villeurbanne, on a rappelé à la MVS la situation ici, on a essayé d'actionner un peu des choses, mais pour l'instant, ça bouge pas trop. Donc nous, on va essayer de se mobiliser dans les semaines qui viennent pour que les personnes qui habitent ici, elles accèdent à du relogement, parce que ça fait quand même 2 ans et que c'est plus possible, quoi. Et que là, avec la coupure d'électricité, ça devient vraiment invivable ici. Donc on espère qu'avec la mobilisation, on pourra faire un peu pression pour que les personnes elles soient relogées. D'autant plus que c'est des personnes, il y en a qui habitaient déjà à l'Amphiz, qui ont déjà un parcours de squat depuis plusieurs années, des parcours de rue, des personnes dont tous les enfants sont scolarisés à Villeurbanne. Enfin voilà, c'est des habitantes de Villeurbanne qui devraient avoir les mêmes droits, le même accès aux droits que n'importe quel habitant et habitante de la ville, quoi. On propose à toutes les personnes qui voudraient... soit, par exemple, donner un coup de main. Donc ça peut être de faire des dons. Il y a par exemple besoin de bouteilles de gaz pour la cuisine, de lampes qui se rechargent sur batterie, ou même de batteries portatives pour recharger les téléphones et les lampes. Par exemple, ça peut être aussi des personnes qui habitent pas très loin d'ici, donc qui pourraient mettre à disposition temporairement leur salle de bain pour une douche, leur machine à laver ou une prise pour charger un téléphone, ou qui ont juste envie de venir, de passer, donner un peu de soutien, donner des coups de main sur des petits travaux ou des petites choses pour améliorer la vie des gens ici. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour donner des coups de main, elles peuvent écrire à l'adresse mail de la CAL, La CAL, c'est la Coordination d'Action pour le Logement Lyon et Environ. C'est un collectif qui s'est créé il n'y a pas très longtemps et qui essaye de donner des coups de main sur des squats, d'organiser des mobilisations autour du droit au logement. Donc l'adresse mail, c'est cordo-logement69@riseup.net. Donc elles peuvent nous écrire sur cette adresse et puis on les tiendra informées dès qu'il y a besoin d'un coup de main pour les orienter sur des besoins spécifiques ou pour par exemple si on se mobilise prochainement sur des rassemblements ou sur des mobilisations pour faire avancer un peu la situation.
Donc si vous êtes voisin du squat Auguste Blanqui, n'hésitez pas à les contacter pour venir en aide aux habitants et on vous invite à rester vigilant pour tout appel à mobilisation, soit pour soutenir le lieu, mais aussi pour plein d'autres squats puisqu'il y a plusieurs dates de procès pour d'autres squats, à savoir le 17 septembre, le 27 septembre et le 1er octobre et qu'ils appelleront peut-être à des rassemblements. Et on enchaîne maintenant avec notre invité.
Oui, c'est la rentrée, hein, donc on voulait commencer tout de suite sur les chapeaux de roue avec la rentrée du mouvement social localement. On va expliquer ça un peu plus en détail. Il y a un préavis de grève qui avait été déposé du 30 août au 3 septembre par les agents de la ville de Lyon pour protester contre l'application à partir du 1er janvier, normalement, de la loi de transformation de la fonction publique. Cette loi, aussi appelée loi du Sceau, elle prévoit entre autres hein, la hausse du temps de travail et la limitation du droit de grève. Donc à ce préavis de grève, notre chère maire a répondu par une petite note limitant d'ores et déjà le droit de grève. Donc on voulait vous en parler un peu ici. On accueille Sébastien qui est secrétaire général de la CGT Ville de Lyon et qui va nous parler un peu de ce mouvement. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir à tous et merci à vous surtout de nous recevoir. C'est pas évident de se faire entendre et ça fait plaisir d'être là.
Alors, est-ce que tu peux un peu déjà nous expliquer ce que c'est cette loi de transformation de la fonction publique, qui elle concerne? Quand est-ce qu'elle va être appliquée?
C'est très simple, hein, ça concerne un peu tous les fonctionnaires et tout ça a été fait en 2019. En fait, c'est la loi de travail qui a été transférée à la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont changé le mot privé par fonction publique. Donc, c'est la fusion des instances, c'est l'application des 1607 heures. On a déjà, et puis beaucoup la ville de Lyon, parce qu'on aime bien ça et tout ça, des contrats, ce qu'on appelle dans le privé des contrats de chantier, mais qui sont en fait des contrats de mission. C'est-à-dire qu'on prend un gars, on lui dit t'as une mission à faire, ça peut durer jusqu'à 6 ans. Et du jour au lendemain, si la collectivité décide que la mission n'est plus valable, quoi, le mec il peut se faire virer. C'est plus réellement de la fonction publique, quoi. Donc il y a la mise en place des 1607 heures et puis il y avait aussi un petit paragraphe sur le droit de grève où il y avait certains services. Alors je ne me souviens plus, je crois qu'il y a les éboueurs. Ça concerne pas mal.
Le transport, j'ai noté, les aides à domicile, l'accueil des enfants et la restauration collective et scolaire.
Où ces agents doivent se déclarer 48 heures avant s'ils sont grévistes ou s'ils ne sont pas grévistes.
Comme ce qui se passe pour les cheminots ou les professeurs des écoles déjà, ils sont en train de continuer à essayer d'appliquer de plus en plus ce truc pour empêcher les gens de faire grève en fait, puisque se déclarer 48 heures avant, c'est
totalement. Le principe. On sait que il y a déjà quelques temps, Colomb avait sorti le service minimum. Hein. Il faut savoir que des fois, quand les cantines sont en grève à la ville de Lyon, les enfants lyonnais ils bouffent des sandwichs froids, enfin des trucs qui ne sont pas terribles, terribles, mais ils sont contents, ils accueillent quand même les enfants et tout ça. Donc, ils avaient déjà mis un bon coup Colomb, mais là, ils y vont beaucoup plus fort, les copains qui sont venus après, enfin les gens qui sont venus après. Quoi.
Et du coup, cette loi, elle est censée être appliquée à partir de quand?
Alors, elle est applicable en plusieurs fois. Alors, il y a déjà des choses qui sont appliquées. Par exemple, les contrats de mission, ça existe déjà. Hein. Donc, je vous dis, à la ville de Lyon, là, je pense qu'en contrat de mission, on doit être pas mal parce que je vois un peu dans tous les services des chargés de mission qui viennent faire étudier un peu les fiches de poste des agents. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a déjà une chose qu'on appelle chez nous la commission administrative paritaire. C'est-à-dire, c'est tout, la carrière de l'agent qui passait devant des élus du personnel et puis aussi des élus de la mairie. Alors, il y avait si l'agent devait être transféré, les sanctions disciplinaires, les évaluations de l'année de l'agent, tout passait dans cette CAP. Déjà, il y a beaucoup de choses. Ils ne voyaient plus que les cas disciplinaires. Ils ne voyaient même plus les tableaux d'avancement. Maintenant, dans la fonction publique territoriale, enfin, moi, je suis arrivé dans la fonction publique. parce que je pensais que c'était différent que le privé et que il y avait les concours, c'était voilà quoi, c'était pas la peine de sucer son patron pour avancer ou quoi que ce soit, et c'est ce qui me plaisait quoi en arrivant dans la fonction publique. Bah là maintenant ils vont faire ce qu'ils veulent vraiment quoi, parce que même on ne verra même plus les agents qui vont prendre des grades, ça se passera entre eux, enfin voilà, les représentants syndicaux ne verront plus rien du tout.
Cette loi-là, c'est une loi qui est décidée par le ministère, par le ministère, et du coup, elle doit être appliquée localement, elle est censée être appliquée localement. Comment ça se déroule, ces prises de décision, pour les appliquer dans les villes? Est-ce qu'il y a des moyens pour les municipalités ou non de contrer tout ça ou pas?
C'est de reconnaître la pénibilité dans certains travails, comme les agents qui travaillent dans les crèches ou les agents qui bossent dans les EHPAD. Il y a aussi les agents qui travaillent dans les écoles. Leur travail est reconnu comme pénible. Il suffit simplement d'envoyer un courrier à la préfecture et on arrive à avoir gagné quelques jours de congé, quoi. Il y a même il y a les agents placiers de la ville de Lyon, ceux qui travaillent dans les marchés. Ils travaillent 6 jours sur 7, les mecs, quand même. Qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Jour férié, pas jour férié. Dimanche, pas dimanche. Ils travaillent tous les week-ends. Hein. Ils n'ont pas le jour de repos, c'est ou un lundi, ou un mardi, ou un mercredi, quoi. Ils ont 7 jours de compensation en plus de vacances que les autres, quoi. Ils peuvent être reconnus dans la pénibilité. Mais la ville de Lyon, apparemment, ce n'est pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un chargé de mission qui est venu au mois de mai. Alors, mon organisation syndicale, je suis bien implanté chez les placiers, on avait fait un mouvement de grève début 2020, juste avant la pandémie. Ils m'ont tout de suite alerté, il y a un type qui vient et tout ça dans notre service, il veut retravailler nos fiches de poste. Je dis, oula, mais c'est bizarre ça et tout. Parce qu'en fait, quand ils vont passer la chose des 1607 heures, ça va passer au conseil municipal et tous les règlements intérieurs sautent. Donc ils sont en train de travailler petit à petit, service par service, regardez, ils font croire un petit peu, miroiter aux agents, les placiers, c'était peut-être vous allez être agent de maîtrise, avoir un grade supplémentaire ou ce genre de choses. Mais on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent faire.
Et du coup, ensuite, c'est au conseil municipal d'acter l'application de la loi.
Des 1607 heures. En fait, ce qui se passe chez nous, à la ville, on a 3 jours qui seraient extra-légaux, plus d'autres. Alors, les agents placiers, il y a les agents aussi qui bossent dans les EHPAD de nuit. Qui font des nuits de 10 heures et qui ont des compensations de journée et tout ça. Eux, ils ont des jours en plus. Mais les agents généraux de la ville de Lyon, c'est 3 jours. C'est le jour du maire et les 2 jours qu'on appelle fractionnés hors période, quoi, qui risquent de nous enlever. Et ils enlèvent aussi parce que, certainement, les femmes jusque-là avaient une journée par an quand elles avaient un enfant de moins de 16 ans, quoi. Et ce n'était pas bien égal par rapport aux hommes. Donc on aurait pu se dire, on va la donner aux hommes dans ces cas-là. On va pas vers le haut, quoi, et tout ça. C'est ce qu'on leur a dit, hein, quand ils nous ont annoncé qu'ils enlevaient cette journée des moins de 16 ans. Oui, les hommes, ils l'ont pas. Donnez-la aux hommes, c'est pas un souci. Et tout, comme ça, on est tous sur le même niveau.
Du coup, c'est tous les acquis locaux qui vont sauter avec cette loi. Et du coup, ça serait à partir de novembre-décembre que le conseil municipal devrait le...
À la ville de Lyon, tout est prévu. Hein. Vous savez, ils ont une administration qui est assez forte, avec des DGRH et des DG. Ça doit passer au comité technique. C'est-à-dire que ça doit être présenté aux représentants du personnel. Ils s'en doutent très bien que... En principe, unanimement, parce qu'il faut rappeler que là, c'est une intersyndicale historique à la ville de Lyon. Il y a tous les syndicats de la ville de Lyon qui sont là. On est 7. Et il y a des syndicats qui ne sont pas connus d'être révolutionnaires. La CFDT, UNSA, la CFTC. C'est vraiment des... Donc, en principe, on va tous voter contre. Donc, ils s'en doutent, ils le savent déjà. Ils ont déjà prévu un autre CT pour le présenter, parce qu'ils sont obligés de le présenter. Hein. Quand il y avait eu l'internat Fabre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait durer un peu les choses, les syndicats de la ville en votant contre, mais ils le représentent après, ils ont 10 jours pour le représenter, et puis même si on vote contre, c'est consultatif, terminé.
Alors justement, peut-être parler un peu de la mobilisation, il y a eu un préavis de grève le 30 août pour une semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, combien il y a eu de grévistes, et puis quelle a été éventuellement derrière la réaction de la mairie?
Alors le nombre de grévistes, c'est un sujet qui fâche et tout à la ville de Lyon, parce que on ne saura jamais le nombre de grévistes réels. Ils prennent les effectifs de la ville de Lyon en disant qu'il y a eu 8500 agents. Mais ça, c'est un effectif sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en formation, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui sont en arrêt maladie. enfin, il n'y a jamais eu 1500 agents. Un exemple, on va parler d'un truc qui fâche ici, c'est les policiers municipaux, cher à Grégory Doucet. Ils sont 350 sur le papier. Au mieux, ils sont 200. Au mieux. Dans une journée, le mieux d'une journée par an. Donc on n'est jamais. Donc ils nous donnent des chiffres de grévistes qui ne sont pas vraiment réels. Et puis surtout, la dernière fois qu'on a fait grève, ils ont sorti cette note de service qui a empêché beaucoup de gens à faire grève. Le maire qui a sorti 2 courriers pour les agents, donc ça met un petit peu la pression.
Alors, en gros, peut-être donner le contenu de cette note.
Avant, oui. Mais juste avant, je vais quand même revenir sur le fait. En fait, tous les syndicats se sont rencontrés début juillet et on a poussé un vrai coup de gueule parce qu'on a vu que ça n'avançait pas. Il y a plein de dossiers qu'on vote contre, hein, et tout ce qui s'ensuit. Et on s'est tous rencontrés. On a demandé un rendez-vous au maire le 13 juillet en leur disant si vous appliquez les 1607 heures et contre le droit de grève. Ben on ira au conflit. Et on avait apporté le préavis de grève à ce moment-là. On lui a laissé le préavis de grève après la réunion parce qu'il nous a fait un discours sur l'égalité homme-femme. Il a fallu le reprendre pour dire que c'est femme-homme quand même et tout. Et que de leur côté, il n'y avait que des hommes. Et que nous, les syndicats, il y avait des femmes. Donc là, on sait ce que c'est l'égalité femme-homme en effet. Quoi, et tout. Mais eux, apparemment, ils ne connaissent pas.
Alors, justement, tu peux nous dire cette fameuse note de service qu'ils ont d'essayer d'appliquer au milieu de la semaine de grève. Enfin, vous avez été au courant un tout petit peu avant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est?
Ils l'ont sorti le jeudi ou le vendredi d'avant, applicable au mercredi d'après, en fait. Et ce qui est, en fait, avant, les agents, enfin, encore, c'est là où c'est discriminatoire, hein. Les agents de la ville de Lyon, si on décide de faire 1 heure ou 2 heures de grève, on peut le faire. Et tout ça. Ils ont décidé d'appliquer une note de service qui empêche les agents qui travaillent dans les crèches et les agents qui bossent dans les écoles à poser par à heure. Ils sont obligés de poser la journée entière. Quoi. Même s'ils font qu'une heure de grève, ils sont obligés de poser 1 heure. Quoi. Et c'est pourquoi eux déjà ? Quitte à être dégueulasse, autant être dégueulasse pour tout le monde. Hein. Pourquoi les policiers municipaux, on va en reparler.
Surtout que c'est
pourquoi ils n'ont pas un 30e ? Pourquoi les agents...
C'est des métiers particulièrement féminins, donc...
Avec ça aujourd'hui, parce qu'on a eu un comité technique, on lui a bien dit à M. Bozetti que il fait des tas de promesses pour les femmes et son premier geste politique, c'est interdire des filières qui sont plutôt féminines, quoi. C'est leur interdit de faire grève. En plus, obligé de se déclarer 48 heures avant. C'est-à-dire qu'une ATSEM, ou quelqu'un des restaurants scolaires qui commence à 7h du matin, il doit se déclarer avant 7h du matin, 48 heures avant. S'il arrive et qu'il envoie son mail à 7h02, son chef lui refuse sa grève.
Alors juste, tu peux nous préciser qui est Laurent Bossetti, puisque Grégory Doucet, tout le monde le connaît, Laurent Bossetti peut-être un peu moins.
Alors c'est un peu l'adjoint aux ressources humaines, mais il se fait appeler au service public, ou nous on appelle ça au service public, la CGT, parce que ça nous fait rigoler, mais le développement du service public, voilà. C'est tout un titre.
Qui par ailleurs est élu France Insoumise et qui a fait ruer dans les brancards de la France, enfin en tout cas de la base de la France Insoumise par ses prises de position contre la grève. Il appelait les agents à la responsabilité et à ne pas prendre en otage les usagers. Ce qui paraît quand même un peu étonnant pour un élu France Insoumise.
C'est clair que politiquement, c'est incompréhensible. Quoi. Même s'il y a peu de Lyonnais qui ont voté aux dernières municipales, les Lyonnais qui ont voté, ils ont dit la politique à Colomb, la politique à Macron, on en a marre, quoi. On veut avoir d'autres gens. Et les premières choses qu'ils font, ils augmentent le temps de travail. Je vous rappelle, vous regardez les écolos et la France Insoumise, qui piquent beaucoup sur la CGT d'ailleurs. La France Insoumise, c'est les slogans, c'est les 32 heures, c'est machin. Jamais ils parlent d'augmentation du temps de travail. Non. Et c'est pas dans leur programme. Et les Lyonnais, enfin... Et même les conseillers municipaux, hein, cette note de service qu'on parle, je ne sais pas, moi, je serais l'ancienne maire du premier, qui était défenseur un peu des agents et tout ça.
Nathalie Perrin-Gilbert, pour ne pas la citer.
Voilà, ouais. Qui était quand même bien défenseur des agents quand c'était Colomb qui nous tapait sur la gueule. Maintenant que c'est eux qui nous tapent sur la gueule, on l'entend beaucoup moins. La CGT, on a envoyé à tout conseil municipal, quand cette note de service est sortie, de savoir s'ils étaient bien au courant et s'ils étaient bien d'accord. Alors bon, on n'a pas eu de réponse, hein, bien sûr, mais s'ils étaient bien d'accord et s'ils étaient bien au courant de ce qui se passait. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un comité technique c'est un élu de la mairie qui s'appelle Lévy et qui est plutôt colon et tout ça, et c'est lui qui a défendu les agents. On en est là, se faire défendre par colon, ben non.
Ouais, depuis le début du mandat, vous avez un préavis permanent, tu disais depuis.
Nous, on l'a déposé, alors le syndicat CGT, hein, on a déposé un préavis qui est illimité depuis le mois de novembre, parce qu'il y a vraiment des agents qui sont en souffrance. Enfin, avec tous les protocoles sanitaires qu'on nous a mis un peu dans la gueule pendant une année et demie. Un exemple, au syndicat CGT, on a été plusieurs à se porter volontaire là, pendant le premier confinement, et quelques camarades, on a été bosser dans les EHPAD. Quoi. Bah, franchement, enfin, on a vu ce que c'était. Quoi. De nettoyer des couloirs, de désinfecter toutes les poignées qui peuvent être touchées. On a fait ça pendant des journées, pendant 2 mois. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui puissent se mettre en grève ou qui peuvent se mettre en arrêt maladie, parce qu'à un moment, ils disent stop, quoi. Vraiment, ça a été une période très difficile, quoi. Et on est remercié.
Oui, il n'y a pas tellement de rupture avec...
Il n'y a pas tellement de rupture avec
la précédente majorité municipale dans les pratiques pour vous, agents de la ville de Lyon, quoi.
Bah, en fait, vous savez, les fonctionnaires territoriaux, on fonctionne avec une administration, avec des directeurs généraux. Et tous ces directeurs généraux n'ont pas changé, en fait. Ce sont les mêmes. Et ces directeurs généraux étaient choisis par Colomb. Et étaient pro-macronistes pour certains, mais il y en a qui, sur leur Facebook, c'était quand même noté, quoi. Et tout. Après, ils ont mis leur Facebook en privé pour éviter qu'on les traque et tout ça. Mais c'était noté, machin, je suis en marche, quoi. Voilà, ils sont tous restés. Donc les pratiques restent. On ne peut pas... on sort de... 20 ans de colons, hein, c'est ça, hein, et, ouais, tout. Ouais, et ouais. Une administration qui est depuis 20 ans dans l'idée de rendre des postes. Si on fait une réorganisation de service, c'est pour récupérer des heures, rendre des postes. Ils sont dans cette optique-là, les mecs. Quoi.
Et de toute façon, cette note de service de Doucet qui limite le droit de grève, ou encore les prises de position de Laurent Bossetti sur Twitter pour limiter le droit de grève, montre qu'il n'y a pas, de toute façon, indépendamment des directions, il n'y a pas de volonté politique de changer et d'infléchir la politique qui a été menée par Colomb durant toutes ces années. Quoi.
On a mis cette note de service au tribunal administratif. Hein. On a fait un référé de suspension. Donc on a eu la réponse 48 heures après, on s'est fait rejeter. Mais le tribunal administratif ne s'est pas encore
prononcé sur le
côté légal ou non légal de cette note de service, où il n'y a pas de numéro, où finalement le mec qui la signe, on ne sait pas réellement qui c'est, est-ce qu'il a une délégation de signature, et surtout ce n'est pas passé au conseil municipal. Parce qu'il y a 3 points dans cette note de service. Il y a les 2 points qui sont en lien avec la loi de 2019, où ils doivent se déclarer 48 heures avant, mais le 1/30e. Ouais. C'est pas ça, c'est un petit cadeau bonus. Hein. Ça, c'est une vieille loi qui existe et tout ça. Ça n'a jamais été dans la loi de 2019. Okay. Ils se servent de la loi de 2019 pour ajouter une saloperie, mais ça n'a rien à voir avec la loi de 2019. Hein, ça.
Est-ce que les prochaines étapes,
oui, là, il y a eu un rassemblement le 2 septembre déjà, qui a réuni pas mal de monde. Hein. Il y avait y compris des usagers des services publics de la ville de Lyon. C'est quoi maintenant les prochaines échéances? Comment on peut vous soutenir et comment on peut suivre un peu votre actualité?
Alors, c'est le 30 septembre, le prochain rassemblement, jour du conseil municipal. Alors j'appelle vivement les Lyonnaises et les Lyonnais à venir nous donner un coup de main, hein, parce que après le service public, là ce qu'ils en font actuellement, avec un projet d'administration un peu fou, de rajouter encore des directeurs, la ville de Lyon vient de louer 1000 mètres carrés de bureaux rue de la République, hein, quand même, vers le pâté, depuis le mois de juin, mais on ne sait pas quel service on va mettre dedans, hein, vous voyez. C'est pas ces services publics-là qui veulent les Lyonnais, c'est des crèches pour leurs gamins, c'est des EHPAD pour les anciens, c'est des écoles. Voilà, enfin, ce qu'ils en font, c'est pas terrible, et surtout, enfin, les agents du service public sont malmenés, quoi. Et on a été déjà bien malmenés pendant 2 ans, 1 an et demi, on était quand même pas mal en première ligne, quoi, pendant toute cette période. Donc voilà, quoi, faudrait pas nous oublier, on nous a applaudi à 20h pendant quelques temps et tout. J'ai vu que dès que le déconfinement était fini, il n'y avait plus d'applaudissements. Moi, on continuait encore à travailler, ça fait bizarre, quoi. C'est un peu de solidarité entre nous, ça ferait du bien.
Sachant que la mairie de Lyon peut prendre la décision de ne pas l'appliquer, que d'autres mairies en région parisienne l'ont décidé, donc il y a un rapport de force qu'il faut mettre en place et qui est possible, et vous avez besoin de soutien visiblement, donc on continuera à parler de ce 30 septembre et des suites du mouvement.
Oui, on rappellera la semaine d'avant les auditeurs et les auditrices à venir vous soutenir. On peut aussi avoir un peu d'infos sur la page Facebook de la CGT Ville de Lyon.
Voilà, il y a une page internet aussi, CGT Ville de Lyon. Je crois qu'il y a un Twitter aussi, les gens aiment bien. Puis en plus, notre directeur général des services s'est abonné à toutes nos pages. Donc n'hésitez pas, hein, parce que ça sort le petit procès qui arrive. Donc n'hésitez pas même à mettre des commentaires si vous voulez, un peu croustillant, hein, contre tous ces gens. Il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà. Ok, et ben merci beaucoup d'être venu nous parler.
C'est moi qui vous dis encore vraiment un grand merci, quoi.
Ouais, avec plaisir.
De recevoir les agents de la ville de Lyon. Merci.
Et ben avec plaisir. Nous on termine.
On a le temps de prendre un tout petit agenda.
Ouais, un mini agenda.
Ouais, si j'arrive à lire ce qu'on m'a écrit. Alors, donc mercredi 15 septembre, atelier d'accompagnement à l'auto-observation gynécologique.
Bravo.
Et le mail, c'est la...
Faut s'inscrire par
mail. Ouais.
Bon. Le grog de Lyon @protonmail.com.
Voilà, le vendredi 17 septembre, sinon il y a la projection d'un film documentaire sur l'Amphysiade. Vous savez, ce squat qui a existé pendant 2 ans à Villeurbanne avec...